J'aimerais seulement vous présenter quelques pensées sur la façon si remarquable dont l'évangile de Luc, dans son dernier paragraphe, nous fait part de ce moment émouvant mais glorieux où tu fus séparé des tiens et élevé auprès d'eux dans le ciel. Dernier paragraphe de l'évangile de Luc. Et il les mena dehors jusqu'à Béthanie. Et levant les mains en haut, il les bénit. Et il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux et fut élevé auprès d'eux dans le ciel. Et fut élevé dans le ciel. Et eux, lui ayant rendu hommage, s'en revinrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Il y aurait sûrement profit à rechercher dans les quatre évangiles ce qui a trait à l'acte final du ministère du Seigneur sur la terre. Nous y trouverions, à n'en pas douter, source d'encouragement, d'édification, bien des points touchés par l'Esprit de Dieu pour nous montrer comment s'opéra cet enlèvement. Nous pourrions peut-être, en particulier, la chose pourra peut-être avoir lieu, ajouter à la lecture de ce court paragraphe ce que le même auteur a inspiré lui a donné comme complément dans le premier chapitre du livre des Actes. Mais pour l'instant, fixons ensemble nos pensées sur celui qui allait être élevé d'auprès des siens, étant séparé d'eux, élevé dans le ciel. Luc, nous le savons, ne s'occupe pas de l'ordre chronologique des faits, mais le Saint-Esprit l'a conduit à faire un choix parmi tous les actes de grâce, les miracles de puissance, toutes les manifestations de bonté et d'amour qui ont marqué ce ministère béni du Seigneur Jésus. Et lui, qui j'entends le Saint-Esprit, qui dans cet évangile nous l'a dépeint, nous l'a montré en Gethsémané et sur la croix, ajoutant quelques détails d'une très grande valeur et d'un grand prix pour nous à ce que Matthieu et Marc ont présenté de la passion de notre Sauveur. Maintenant, après un long chapitre 24e, dont on sait qu'il est marqué de la même pensée de bienveillance, de bonté, de dévouement à l'égard de ses bien-aimés. À la fin de ce chapitre, est d'une manière assez abrupte, après leur avoir recommandé de demeurer dans la ville, jusqu'à ce que la promesse du Père, la puissance d'en haut, vint et les couvre, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Comme sans transition, nous mène sur la montagne des Oliviers, le Seigneur lui-même conduisant là les siens, et il les mena dehors jusqu'à Béthanie. Le lieu de son enlèvement, de sa montée en gloire, avait pour le cœur de Jésus un prix tout particulier. Géographiquement, comme nous le savons, la profonde vallée du Cédron séparait Jérusalem de la montagne des Oliviers. C'était une ascension, c'était un chemin que le Seigneur avait pris souvent, car le chemin de Béthanie passait près du jardin des Oliviers où Jésus s'était souvent assemblé avec ses disciples. Mais il monte et il arrive au sommet de cette petite montagne qui était à l'orient de Jérusalem. Et là, comme en vue de cette bourgade où il avait plusieurs fois bu du torrent dans le chemin, une bourgade chère à son cœur, une femme nommée Marthe lui avait ouvert sa maison, et sa sœur Marie s'était là assise à ses pieds écoutant sa parole. Occasion bénie pour Jésus de donner à celle qui était attentive, ayant choisi la meilleure part qui ne pouvait pas lui être ôtée, quelques-unes de ces communications que le Père lui avait données, ces paroles données aux siens. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont véritablement connu que toi tu m'as envoyé. On aime à penser, non point tant à Marie, ni au service de Marc, mais on aime à penser au prix pour notre Seigneur de tels moments de communion et d'intérêt et d'attachement, un amour qui se donne, un amour qui reçoit. Il avait connu là dans la maison de Marthe. On se souvient aussi de cette sympathie entière qu'il était venu apporter aux sœurs qui pleuraient dans une révélation de lui-même. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. On le voit aller au tombeau de Lazare, frémir dans son esprit et se troubler. Et quand Marthe est là pour lui dire, Seigneur, il sent déjà, il lui rappelle, il redonne la question, il présente la même question. Crois-tu cela? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il était là pour la gloire de Dieu. Et il était là pour que aussi son Père donnât à connaître quelque chose de sa propre gloire à lui, la résurrection et la vie. Il était le prince de la vie, dont le cœur humain, divinement sensible, portait, dans le moment où d'un mot il allait faire arracher Lazare au tombeau, portait comme la douleur, dans un gémissement, la douleur d'une humanité qui, depuis des siècles, était courbée sous la loi du péché et de la mort. Nous savons la suite. C'était aussi le lieu où, dans la maison de Simon le lépreux, on lui avait fait un souper. Et là, chacun était à sa place. Et Lazare, le mort, était celui qui était là avec Jésus, son sauveur, et Marthe servait. Mais plus précieux que ce service, Marie avait anticipé le jour de sa sépulture. Elle n'ira pas le chercher au tombeau, mais elle a mis en réserve pour lui le parfum de nardure de grand prix. C'est jusqu'à Béthanie que Jésus conduit la petite troupe de ses disciples. Il les mena hors de la ville coupable, hors de la ville qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui lui sont envoyés, où il fut élevé de la terre sur la croix, mis au rang des iniques, et fait malédiction pour nous. Il les mena dehors jusqu'à Béthanie. Le récit est d'une variété qui est saisissante dans, comme toujours, le choix des expressions, une sobriété qui est à la hauteur. C'est le langage divin de l'acte qui allait s'accomplir. Nous ne savons pas si j'en avais le sentiment, mais à n'en pas douter, les siens qui l'ont vu monter en haut, là, séparés d'eux, élevés dans le ciel, ont pu en un moment comprendre, croire en voyant, mais entrer. Plus que cela ne leur avait été possible quelques semaines auparavant dans ce que le Seigneur leur avait dit. Je quitte le monde, je m'en vais au Père. Vous savez maintenant la tristesse. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je vous ai dit, et moi je m'en vais au Père. Ajoutant à ses reproches d'un amour encore méconnu dans son étendue et dans sa valeur, ajoutant aussi les paroles si douces d'espérance et d'avenir glorieux. Je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi. Et puis la promesse du Consolateur. Mais là, le langage de l'Évangile se borne à nous dépeindre la scène en quelques expressions qui nous saisissent. Il lève les mains en haut. C'est l'attitude de l'intercession. Les mains en haut, c'était comme l'attente, non pas la demande, mais l'attente pour les siens de ce que le Père allait leur envoyer de consolation et de joie, alors que le Seigneur avait dû dire par cette parole attristez votre cœur. Il lève les mains en haut. Et il est béni. Geste précieux auquel nous aimons à nous référer. En voyant là l'amour de Jésus donner aux siens une preuve nouvelle, mais une preuve qui dure depuis bientôt 20 siècles, quant à la pensée constante du Seigneur envers ses bien-aimés. Il les bénit, levant les mains en haut, sans vouloir attacher la suite du récit tel que la donne le commencement du livre des Actes. Nous sommes pourtant orientés vers cette pensée. Les messagers sont là pour leur dire ce Jésus. Vous avez vu son allant au ciel. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu montant au ciel. Mains en haut et les bénissant. Mains du Seigneur, toujours orientant nos pensées par son geste d'intercession vers celui qui maintenant pour nous prie, nous portant sur son cœur et sur ses épaules, élevant les mains en haut. La dernière vision qu'ils ont eue de leur Sauveur, de ce Jésus qui avait été avec eux pour leur donner les paroles de Dieu, pour les réconforter, pour faire en sorte que durant tout le temps où il était avec eux, il n'avait vraiment manqué de rien. Les mains du Seigneur levées en haut et le geste de la bénédiction. Levant ses mains en haut, il est béni. Et il arriva qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux. Voilà le mot douloureux de ce paragraphe. Une séparation. C'est le mot douloureux. Et une chose que je me permets de souligner, moi qui ne connais rien absolument au texte qui est dans lequel le Saint-Esprit a donné à connaître ces récits, mais qui m'en réfère à ce que d'autres ont écrit. Si nous cherchons la version catholique, Si nous cherchons les versions protestantes, nous trouvons cette expression « il se sépara d'eux ». Nous n'avons pas lieu de penser que le cher serviteur de Dieu, éminent, et surtout avec la recherche continuelle de la pensée de Dieu, telle qu'il en a donné la preuve dans la version que nous apprécions à sa valeur, n'ont pas lieu de douter que non seulement il nous donne le texte exact, mais surtout il oriente notre méditation vers ce fait qu'il fut séparé d'eux et fut élevé d'auprès d'eux dans le ciel. C'est un acte divin, c'est le Père qui l'a accompli. Ressuscité par la gloire du Père, il s'en allait vers le Père et le Père envoie, comme nous le savons, la nuée qui vient et qui le reçoit. Mais ce n'est pas dit ici. C'est acte 1 qui ajoute ces détails. Notre pensée est orientée par l'Esprit de Dieu vers ceci. Quand il est séparé des siens, il fut séparé d'eux. Quand il est béni, main tendue, élevée en haut, il y avait dans la contemplation du Sauveur montant en gloire quelque chose qui ne pouvait qu'être reporté à Dieu, un acte de Dieu à l'égard de celui qui était maintenant leur sauveur bien-aimé et qui allait disparaître à leur vue. Il fut séparé d'eux et fut élevé dans le ciel. Il arriva en les bénissant, il fut séparé d'eux et fut élevé dans le ciel. Celui qu'il avait pleinement glorifié sur la terre, celui dont il avait revendiqué tous les droits, conscient de la mission qui lui était départie, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, où Dieu, il avait fait péché pour nous. Expression d'une portée insondable, celui qu'il avait mis dans la poussière de la mort. C'est le Christ en croix par l'esprit prophétique qui pouvait dire à celui dont toutes les vagues et tous les flots passaient sur son âme sainte, tu m'as mis dans la poussière de la mort. Celui qui sont les expressions si touchantes de Lamentation chapitre 3e avait été conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Il y a un début de ce chapitre 3e qui nous présente Christ dans ce qu'il a enduré, dans ce qu'il a connu, dans ce qui a été douloureux pour son âme. Certes, c'est contre moi que toujours il a tourné et retourné sa main. Mais celui entre les mains de qui il avait pu remettre son esprit, quand la victoire était remportée, entrant dans la mort en vainqueur, Père, entre tes mains, j'en mets mon esprit. Celui qui avait délié pour lui le lien de la mort, maintenant, le reçoit, l'élève vers lui, c'est la puissance divine, le reçoit en justice et l'introduit dans sa gloire. Il fut séparé d'eux et fut élevé dans le ciel. Il leur avait dit la tristesse a rempli votre cœur à l'énoncé de cette séparation. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Et cela s'était réalisé. Au soir de sa résurrection, le Sauveur était apparu à ceux qui, par crainte des Juifs, avait soigneusement fermé la porte, mais avec un corps spirituel qui s'assujettissait la matière, Christ était entré et s'était tenu au milieu d'eux. Et ils avaient alors reçu une double expression de ce qui maintenant allait remplir leur cœur. Paix vous soit, paix vous soit. Mais ils avaient aussi, et quelle prémisse, que celle d'un esprit soufflé en eux, vie de résurrection de leur Sauveur, maintenant là, présent au milieu d'eux, leur montrant ses mains et son côté. Et désormais, s'ils n'avaient pas encore reçu la promesse du Père, cette puissance d'en haut qui allait les revêtir, leurs pensées, peu à peu, désormais, allaient se former, et la présence de Jésus, ses interventions dans les 40 jours qui séparent, son ascension, sa résurrection de son ascension, nous pouvons bien penser que la grâce les avait préparés pour cette rencontre. Et l'Esprit de Jésus, recevez l'Esprit Saint, leur donne dans ce moment les sentiments qui correspondaient, et pour eux, et pour le Seigneur, et pour son Dieu, toute la solennité de cette scène, mais toute la valeur bénie de ce qui s'accomplissait sous leurs yeux. Et eux, y ayant rendu hommage, c'est une chose bien naturelle, dirions-nous, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Finis les craintes, que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Finis, dans une certaine mesure, les exercices qu'ils ont connus et les étapes de cette manifestation, de ces manifestations diverses dont ils ont été les témoins, et les grâces ajoutées aux grâces. Maintenant, il n'y a place pour eux que, d'une part, pour les hommages rendus à celui qui maintenant prend en haut la place glorieuse que Dieu lui réserve, il rentre comme homme dans cette gloire d'éternité qui n'avait pas cessé d'être la sienne. Cela, au lieu d'être rempli de tristesse, s'en retourne à Jérusalem avec une grande joie. En sorte que cette séparation qui s'évoque dans ce qui est le mot douloureux, ce paragraphe, elle est marquée pour eux d'une grâce de grand prix. Ils fixent les yeux en haut, ils le voient enlever hors de leur vue, ils voient la nuée qui vient et qui le reçoit, et le résultat, c'est qu'ils rendent hommage à celui que Dieu glorifie comme sous leurs yeux. Ils s'en retournent à Jérusalem, le cœur rempli de joie, et leur attitude était celle de ceux qui louent et qui bénissent. Ils étaient continuellement dans le temps, louant et bénissant Dieu. Nous aimons à évoquer cette scène, chers amis chrétiens, toute marquée d'une grâce qui s'affirmait quant au temps de son absence. Par les bras de Jésus élevés en haut, par la bénédiction qui descend, dont il est le canal, c'est lui qui bénit, mais tout procède du Père. Nous aimons à penser à ce qui s'opère alors. C'est dit ici avec un choix d'expression d'une grande simplicité, mais c'est marqué d'un sceau divin. Et nous nous réjouissons avec les disciples. Et nous les sentons non pas seulement consolés, mais heureux d'être les témoins de cette ascension glorieuse, appelée, comme nous le savons, à un service que le Seigneur leur avait donné, prêt à recevoir 10 jours après cet esprit de puissance, d'amour et de conseil, revêtu de puissance pour que le service qu'ils vont accomplir soit réalisé selon l'Esprit Saint. Et le commencement du livre des Actes nous montre ce dont ils ont été les objets comme grâce jour après jour dans l'accomplissement d'un service qui ne manquait pas d'être délicat et de soulever contre eux la haine. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. et nous sommes heureux de nous joindre en pensée à la troupe des disciples, s'assemblant autant continuellement dans le temps. Ici, nous avons la preuve du côté moral du récit de Luc selon l'Esprit Saint, parce que dans les chapitres 1 et 2, en particulier du livre des Actes, nous voyons bien qu'ils se rassemblaient dans la chambre haute, ils étaient là en prière, ils attendaient la réalisation de la promesse du Père, l'Esprit Saint est descendant sur eux. Ce fut un temps de prières instantes, de réunions de prières qui, certes, ne devaient pas manquer de ferveur dans l'attente. Mais, moralement, ils sont dans la maison dont Jésus avait dit, c'est la maison de mon Père. Moralement, ils louent et ils bénissent Dieu dans ce qui était le lieu de sa demeure, à l'égard duquel il avait dit, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Grâce précieuse du Seigneur, secours de son intercession, secours efficace, intervention divine pour élever là-haut, au plus haut des cieux, et faire asseoir à sa droite de celui qu'il avait mis dans la poussière de la mort. Rien dans ce paragraphe n'est marqué que de ceci. Il est séparé d'eux, il est élevé dans le ciel, il le voit s'en allant au ciel, les bénissant, la joie est dans leur cœur. Avec la joie, la louange, la bénédiction qui remonte à Dieu en action de grâce, comme cette bénédiction était descendue de Dieu par l'intercession de son Saint-Fils. Ne trouvez-vous pas, chers amis, qu'il y a là pour nous un champ de méditation et une source de consolation, d'encouragement, de paix et de joie? On n'a rien de pareil dans les trois autres évangiles. Peut-être, dans une certaine mesure, le fait que l'évangile de Jean, qui nous le présente comme le Fils de l'homme qui est dans le ciel, prend le chemin du ciel suivi des siens. Il a une scène qui est également de toute beauté. Ils le suivent et il est devant. Et il conduit la troupe de ceux qu'il aime, à qui il a donné la mesure de son amour, jusque dans la maison du Père. Mais nous avons dans lui quelque chose qui nous pénètre par, je dirais, ce parfum de grâce parfaite. Quelque chose que nos cœurs, que l'Esprit de Dieu oriente vers Jésus maintenant dans le ciel, reçoivent et apprécient à mesure que ces choses se sondent. Nous approchons du moment, mes chers amis, où se réalisera ce que le Seigneur a dit aux siens et ce qu'il nous a dit en le leur disant. Je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Telle est la bienheureuse espérance par grâce et la consolation de nos cœurs, et les conditions même de sa remontée en haut sont propres à nous attacher à cette adorable personne que nous aimons parce que lui nous a aimés le premier.